se trouve dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 2, et là nous lirons les versets 22 à 44. Pardon. Donc Luc 2, 22 à 40, pardon, 40. Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Car il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. » Il devait offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un certain Siméon. Cet homme était droit, il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut. » Ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront, et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Pénuel, de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse. Puis, demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce même moment et se mit à remercier Dieu. Et elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Quand les parents de Jésus eurent achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, ils retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu reposait sur lui. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, avant d'entendre la prédication, nous chanterons au cantique dans l'Alléluia à la page 264 et nous chanterons les deux premiers couplets. Comme un souffle fragile, et nous pouvons chanter debout.
Oh.
Le fil rouge des textes de ce dimanche est l'assurance que l'on peut avoir confiance en notre Dieu. Dieu qui accomplit ses plans à son heure et selon son rythme. Il n'a pas seulement créé le ciel et la terre, comme nous le confessons chaque dimanche, mais il les maintient et conduit aussi sa création afin de l'amener vers son but, vers, comme l'appelle l'apôtre Paul, sa bonne fin. C'est-à-dire, pour reprendre le terme du même apôtre, de mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, le bienveillant dessein qu'il avait formé et de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et le texte de ce dimanche ne parle pas en termes abstraits, un peu comme la citation de l'apôtre Paul que je viens de vous livrer, mais ils reprennent des exemples bien concrets de personnes qui ont attendu longtemps avant de voir se réaliser les promesses de l'Éternel. Oui, il nous est demandé de croire et de faire confiance, soulignant que les choses n'arrivent pas quand nous le voulons, ni même qu'elles dépendent de nos efforts ou de nos mérites, mais que le choix du moment et du comment sont ceux de Dieu. Car si tout dépendait de nos efforts, de nos forces, de notre courage, en quoi pourrions-nous parler de foi et de confiance en Dieu? Par contre, et c'est l'autre aspect des textes entendus ce matin, Dieu agit. Il ne cesse d'agir. Il réalise ses promesses de sorte que nous pouvons avoir l'assurance que notre avenir sera rayonnant. Et nous pouvons nous aussi trouver des traces de l'amour de Dieu dans chacune de nos vies, pourvu que nous sachions regarder, pourvu que nous prenions le temps de regarder. Mais avant d'aller plus loin, intéressons-nous à ce mot « croire ». Qu'est-ce qui fait qu'Abraham a cru, a eu confiance? Calvin le formulait ainsi. On aurait beau parler de croire, tant que nous n'aurons pas compris qu'il faut que Dieu parle et que nous n'aurons pas les oreilles ouvertes et prêtes à entendre pour lui obéir et approuver ce qu'il nous dit. Qu'est-ce donc que croire? C'est recevoir ce qui nous est donné de la bouche de Dieu avec un tel respect que nous nous y tenions sans le moindre doute. Ce n'est pas un raisonnement philosophique ni une démonstration logique qui a poussé Abraham à avoir confiance, mais l'entente de la parole, l'écoute de l'appel de Dieu. Et c'est toujours Dieu qui parle en premier. Paul le formulait de la manière suivante. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si nous pouvons appeler Dieu notre Père, n'oublions pas que c'est parce que lui nous a d'abord appelés ses enfants. Dans le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, on nous présente une personne qui a un merveilleux exemple de ce qu'est la foi. Oui, en observant cette personne, la foi devient beaucoup plus concrète, mieux que si nous avions voulu tenter de la décrire théoriquement. Et je vais parler de Siméon. C'est lui, cette personne, qui peut nous aider à mieux comprendre la foi et à pouvoir aussi l'expliquer aux autres. Car en lui, nous pouvons reconnaître trois aspects par rapport à notre foi. La foi, c'est d'abord en attendre, la foi c'est aussi venir, et enfin la foi c'est voir. Nous ne savons pas quel âge avait Siméon dont Luc nous parle ici, mais il semble avoir été très vieux. En tout cas, il semble qu'il voyait s'approcher sa mort. Siméon avait attendu toute sa vie. Il attendait que Dieu réalise enfin sa promesse à son peuple Israël et qu'il lui envoie enfin le Messie promis, c'est-à-dire le Christ, le Sauveur. Et à un moment donné, on ne sait pas depuis combien de temps, Siméon avait reçu un grand encouragement dans son attente. Dieu lui-même lui avait fait savoir que ce Messie, ce Christ, viendrait de son vivant, et même plus que lui, Siméon, serait autorisé à voir ce Christ de ses propres yeux. Mais maintenant, Siméon avait vieilli, et l'attente n'était certainement pas chose facile pour lui, car toutes les probabilités semblaient aller à l'encontre de la pertinence de son attente. Mais Siméon continua d'attendre et, contre toute apparence, s'accrocha à la promesse que Dieu lui avait faite. Voilà donc à quoi ressemble la foi. La foi, c'est attendre. Attendre contre toute raison. Attendre uniquement dans la confiance de la promesse de Dieu. C'est ce à quoi la foi ressemblait pour Siméon, et c'est ce à quoi elle ressemble pour nous. Bien sûr, ce que Siméon attendait si ardemment à l'époque s'est produit depuis longtemps, et nous n'avons plus besoin d'attendre, en tout cas nous n'attendons plus la même chose. Dieu a envoyé son Messie, son Christ dans le monde. Mais ce n'est pas pour autant la fin de l'attente pour nous, car nous aussi, nous vivons encore dans l'accomplissement. Mais nous attendons la venue du Seigneur, cette fois-ci dans la puissance et la gloire. Nous l'attendons même si tout semble s'opposer à ce que cette attente en vaille la peine. Nous vivons, nous le savons tous, dans une société qui prône le bien-être du corps, la prospérité matérielle et le tout tout de suite. Cela a tendance à nous faire oublier et perdre de vue que nous sommes des personnes qui attendons et qui ne misons pas tout sur cette existence-ci. Et nous avons été, bien entendu, ébranlés jusqu'au profond de nous-mêmes par l'étendue et l'ampleur du malheur de cette pandémie qui, tel un tsunami, s'est propagée si rapidement et a submergé la population mondiale. En effet, l'ensemble de nos activités professionnelles, économiques, politiques, et j'ajouterai culturelles et sportives même, ont été mises en veille. En un mot, les fondements de notre vision du monde et de notre civilisation avec ses valeurs, ses certitudes et son style de vie vacillent. Et nos appuis, nos assurances et nos succès nous semblent tout à coup bien fragiles. Souvenons-nous, nous avons passé Pâques 2020 confinés et maintenant Noël, si nous n'y faisons pas attention, Pâques 2021 aussi, pourquoi pas ? C'est un peu comme si quelque chose ou quelqu'un nous obligeait à nous poser pour prendre le temps de la réflexion sur le vrai sens de ces fêtes. Quand on prend le temps d'attendre et de s'arrêter, cela permet de réfléchir et de remettre les priorités à leur place. Au jour du bonheur, sois heureux, nous disait l'Ecclésiaste, et au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un et l'autre de sorte que l'homme ne puisse rien deviner de son avenir. L'Ecclésiaste nous rappelle ainsi que Dieu règne, qu'il est souverain et que rien n'échappe à sa volonté. La forme particulière d'attendre que nous connaissons aujourd'hui devrait nous inciter à faire silence, afin de lui laisser la première place dans la conduite de nos vies, sachant que ses plans sont des plans de bonheur pour ceux qui comptent sur lui. Oui, nous devrions nous effacer pour mieux nous mettre à son écoute. Nous devrions prendre le temps de revisiter les fondements de notre foi et renouveler notre confiance en sa sagesse et sa guidance. La foi signifie en second lieu venir. Venir là où Dieu lui-même nous appelle. Siméon avait attendu si longtemps le Christ, mais le moment est enfin venu. Dieu lui-même appelle Siméon par son esprit dans le temple. Là, au lieu de la manifestation de la présence de Dieu, Siméon doit rencontrer le Messie tant attendu. Et que fait Siméon ? Ben, il y va, bien sûr. Il vient tout naturellement. Et il aurait été un véritable sot si, après cette invitation au temple, il était resté tranquillement chez lui et avait attendu de voir si éventuellement le Messie ne pourrait pas venir à lui là-bas plutôt que lui aller au temple. Non, quand Dieu lui dit où il peut trouver le Messie, il y va naturellement, sans réfléchir à deux fois. La foi, c'est venir. Et cela vaut aussi pour nous. Il y a toujours des gens qui nous disent « je ne peux pas croire » ou « je ne sais pas faire, je ne sais pas comment faire pour croire ». Figurez-vous qu'ils ont raison. Par leurs propres moyens, ils ne peuvent pas croire. Nous tous ensemble, nous ne pouvons pas croire par nous-mêmes. C'est ce que nous indiquent clairement les Écritures. Et aucun d'entre nous, pas même un pasteur, ne peut produire la foi chez une autre personne. Seul l'Esprit de Dieu peut le faire. Mais nous pouvons dire aux personnes qui ne croient pas et qui aimeraient peut-être venir à la foi, viens. Viens à l'endroit où tu pourras rencontrer Dieu lui-même, où tu peux le rencontrer, lui, le Messie, le Christ. Et Dieu a aussi clairement nommé des lieux de rencontre pour nous, des lieux où nous pouvons rencontrer son Fils Jésus-Christ. Et c'est là où nous entendons sa parole et où nous recevons ses saints sacrements. L'Église est le lieu où Dieu nous appelle et nous invite. Là est le lieu où nous pouvons le rencontrer. Nous avons tous besoin de venir. Si nous restons à l'écart, en espérant que la foi se manifeste d'une manière ou d'une autre, nous attendrons probablement en vain. Et si, à long terme, nous pensons que nous pouvons garder la foi qui nous a été donnée à la maison seulement, que nous n'avons plus besoin du culte ou de la Sainte Cène, alors nous découvrirons qu'en fin de compte, il ne reste pas grand-chose de notre foi. Mais quiconque a rencontré ce Christ ici au culte, quiconque l'a reconnu, lui, la lumière du monde ici, ne réfléchira plus longtemps à la question de savoir s'il doit encore venir. Et il viendra à chaque occasion. Comme Siméon est venu au temple, lui aussi se mettra tout naturellement en chemin à son tour, presque machinalement, sans trop y penser. Car la foi signifie venir, venir comme nous le montre Siméon. Et la foi, finalement, c'est aussi voir, comme nous l'apprend Siméon. Ce qui est particulièrement fascinant dans le récit que nous avons entendu, c'est la façon dont Siméon entre dans le temple, s'approche de Marie et de Joseph, prend le petit Jésus dans ses bras et chante ses louanges. Marie et Joseph, selon toute probabilité, n'avaient pas encore réalisé leur rôle et donc ils ne sont pas entrés dans le temple en criant à tue-tête « Bonjour, voici le Messie, venez l'adorer ». En apparence, Marie et Joseph, avec leur enfant, n'étaient pas différents de toutes les autres familles qui se trouvaient dans le temple. Mais Siméon regarde plus loin, reconnaissant par l'Esprit Saint parmi toutes les autres familles, cette unique famille, parmi tous les autres enfants, cet enfant unique qui est aussi son sauveur. Non, Siméon ne se contente pas de croire aveuglément. Il voit quelque chose. Il reconnaît dans ce qu'il voit quelque chose qu'il ne pourrait pas saisir. saisir immédiatement avec ses seuls yeux charnels. Ce bébé sans prétention est le Messie d'Israël, le Sauveur, la lumière du monde. Oui, la foi, c'est voir. Et cela vaut également pour nous. Lors de culte, nous ne faisons pas qu'entendre, mais nous pouvons aussi voir. Nous pouvons, par exemple, voir des gens aspergés d'eau. Nous pouvons voir des mains être posées sur des têtes. Nous pouvons voir un morceau de pain et une coupe être soulevés par l'officiant et présentés à la paroisse. Mais dans la foi, nous voyons davantage. Nous voyons beaucoup plus profondément. Nous voyons, par exemple, que dans cette eau, Dieu, le Saint-Esprit lui-même, est à l'œuvre pour transformer quelqu'un en une nouvelle personne. Nous voyons que par l'imposition des mains lors de l'absolution, tout ce qui pouvait séparer une personne de Dieu est effacé. Et nous voyons que dans ce pain que l'officiant élève et dans cette coupe qu'il présente à l'assemblée, il n'y a rien moins que celui que Siméon a pris dans ses bras dans le temple, lui, le Christ, le salut du monde. Les étrangers peuvent se demander comment nous parvenons à cette idée, pourquoi nous sommes amenés à penser à trouver Christ là, spécialement dans ce lieu, dans une représentation si étrange et si peu visible. Mais c'est justement par la foi que l'Esprit de Dieu opère et que nous voyons ce qui apparemment ne peut pas être vu. Il n'est pas essentiel, frères et sœurs, de se demander pourquoi nous pouvons voir ce qui n'est pas perceptible par d'autres. Ne nous tracassons pas de cela, mais mettons-nous simplement en route. Continuons à guetter le retour de notre Seigneur, ce retour qui sera visible pour tous. Et jusqu'à ce moment béni, revenons à chaque occasion, ici dans son Église, à l'endroit où nous pouvons le rencontrer, et reconnaissons-le déjà sous la forme discrète du pain et du vin. Alors le chant de louange de Siméon pourra résonner en nous comme une évidence. Seigneur, maintenant, tu laisses ton serviteur partir en paix comme tu l'as dit. Quoi qu'il puisse arriver dans ma vie, et même si ma vie devait s'arrêter demain, tout va bien, car je l'ai trouvé, mon Seigneur et mon Sauveur. Mieux que cela, je ne fais plus qu'un avec lui. Cela, chers frères et sœurs, c'est la foi. Amen.